avouer que j'ai du talent du pour de faire la vie. Je triste la vie. Serait moche alors. Alors
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec aujourd'hui au programme en première partie un entretien avec Camille Isler pour son premier roman qui s'intitule Un chat à trois pattes qui est paru aux éditions Grasset. Et en deuxième partie, nous retrouverons la chronique de Gérard Guégan consacrée à trois ouvrages aujourd'hui. Ça va de Frédéric Vitoux à Lucarelli en terminant par Horace McCoy. Donc il y a de quoi faire. Restez à l'écoute de Radio Libertaire. On retrouve tout de suite Camille Isler pour son premier roman. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de parler d'un premier roman. Dans cette émission, on aime beaucoup les premiers romans et on essaye de les lire le plus possible et de leur faire une place. Et aujourd'hui, il est question de Un chat à trois pattes, premier roman de Camille Isler. Isler ou Isler? Dites-moi tout de suite.
Isler.
Isler. Voilà, comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Qui est paru,
pas de problème.
Qui est paru chez Grasset. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de premiers romans, et il y a pas mal de premiers romans qui sont souvent des autofictions, un peu limitées et qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et l'avantage qu'a mis Isler de Un chat à trois pattes, c'est que c'est un livre qui, justement, même si c'est un premier roman, a un côté beaucoup plus large, aborde plein de questions, c'est riche. Et moi, c'est ce qui m'a plu, parce que au travers des personnages, au travers de l'histoire, au travers du questionnement qu'il y a dans le roman, eh bien, on chemine avec grand plaisir. Il y a l'écriture aussi, il y a l'humour. Et je vous remercie d'avoir fait donc ce chat à trois pattes. Alors, pour commencer, on peut évoquer la situation de départ qui est que nous sommes face à une jeune femme qui se doit d'aller à l'hôpital, qui est attendue et qui fait tout ce qu'elle peut pour retarder le moment de son départ et qui trouve tout un tas d'astuces justement pour temporiser parce que c'est quand même un moment particulier de sa vie.
Oui, tout à fait. Ben, le livre, en fait, s'ouvre là-dessus, sur ce moment où elle essaie de retarder tant qu'elle peut le moment d'aller à l'hôpital. Bah pour une double raison, d'abord parce que c'est un moment assez douloureux, le livre trace les derniers jours, les derniers instants en tout cas de sa mère. Et puis à ce moment-là, elle a été conviée par son frère pour faire une sorte d'adieu commun, et elle a pas du tout envie d'y aller en fait, elle y va un peu par obligation, donc elle retarde le moment, et donc j'aimais bien l'idée de commencer sur une scène d'attente, en fait, où en fait il se passe pas grand chose avant la fin du chapitre. Et effectivement, elle fait tout pour essayer de ne pas arriver sur place, parce qu'en plus elle a un rapport avec son frère qui est assez compliqué, qui est révélé un peu mieux après. Et voilà.
Mais ce qui m'a intéressé dans cette scène d'attente, c'est qu'elle définit très très bien le personnage principal, ce personnage d'Eva, que vous nous présentez et que vous nous faites découvrir justement dans les creux, dans les moments de vide, dans les moments qui ne sont pas des moments d'action. Et c'est intéressant au niveau écriture déjà, et puis c'est intéressant parce que ça correspond à sa personnalité aussi, à Eva.
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, ça c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur déjà, de saisir un personnage... qui n'est pas toujours dans l'action, qui en fait est quand même souvent dans des moments d'attente ou de latence, et puis de le saisir aussi dans son caractère plutôt par le détail, ne pas dire voilà elle est comme ci ou comme ça, mais de le faire sentir en attrapant des tout petits éléments de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est, et d'essayer de faire deviner un peu le portrait de ce personnage principal par de toutes petites choses, et aussi par des moments un peu dérisoires, en fait. J'avais envie que ce soit l'histoire d'une personne, mais saisie plutôt dans des moments et des pensées qui peuvent paraître un peu dérisoires, plutôt que dans les grands événements ou par les grands temps, les grands angles de l'existence. C'était un truc qui me tenait à cœur, pour le coup, d'attraper l'écriture par de tout petits éléments, et de là créer une espèce de connivence aussi avec le lecteur, peut-être, parce que je crois que on se retrouve plus dans ces détails un peu médiocres que parfois dans des grandes descriptions d'événements.
Oui, tout à fait. C'est ce qui permet effectivement l'identification au personnage. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée, parce que ce n'est pas très fréquent dans les romans actuellement que de décrire un personnage qui va se ronger les peaux des ongles au moment où effectivement elle va se retrouver à l'hôpital et pour la fin de vie de sa mère. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans la grandiloquence, on est justement... j'allais dire, dans le réel, dans le concret, dans ce qui fait que le roman prend sa force dans ses détails. Et ça, bah, merci beaucoup. Alors, elle va quand même se rendre donc, à ce moment très particulier avec ce personnage de frère qui est là avec ses enfants. Ce qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une grande différence d'âge entre deux. Ils ont tous les deux 16 ans d'écart. Et... on va découvrir un petit peu cette famille. Donc, il y a la mère qui n'est plus consciente, qui est en fin de vie. Il y a ce frère dont on parlera dans quelques instants. Il y a les deux enfants. Et on se retrouve donc dans une espèce de cérémonie, de rituel, où on est totalement partagé, parce qu'à la fois, il y a l'émotion de ce décès qu'on imagine proche, et en même temps, c'est d'un ridicule accompli. Et elle est aussi dans cette, j'allais dire, entre deux chaises, dans ces deux mouvements émotionnels, parce que entre ces histoires d'assiettes pour mettre des petits gâteaux, de rubans, de rideaux, de pseudo-cérémonies juives, alors qu'ils sont pas particulièrement religieux. Enfin bon, il y a plein d'éléments comme ça qui font que le lecteur est tout le temps dans la connivence avec votre personnage.
Oui, alors cette cérémonie, pour moi, c'était important de la saisir justement, comme vous l'avez très bien dit, dans cet entre-deux, entre bah, le moment de fête est quand même un moment assez tragique, et de l'attraper dans ce que je crois qu'ont aussi, en fait, dans la réalité aussi, ces moments. C'est que c'est des moments où on a une espèce d'acuité totale à tout ce qu'il peut y avoir. Aussi, pour se distraire du côté dramatique, on va attraper aussi tous les petits détails ridicules qu'il y a autour. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je fonctionne un peu comme ça, et j'avais envie de mettre en valeur cette espèce de tension qu'il y a, je crois, souvent dans les moments dramatiques de l'existence, qui sont de manière très paradoxale, souvent des moments assez drôle, enfin où on trouve des endroits de connivence par le rire. Et j'avais envie d'attraper ce moment-là par le côté un peu ridicule et puis de créer cette tension un peu permanente entre c'est absolument ridicule et c'est quand même malgré tout un moment tragique qui se passe, qui a aussi en plus quelque chose de l'ordre de l'indécence, hein, parce que la mère n'est pas encore morte, enfin c'est quand même un cérémonial qui ressemble plus à un cérémonial funèbre, donc il y a ce côté honteux, drôle, ridicule et tragique, et moi j'aimais bien l'idée de tendre cette corde-là et de la pousser un peu à fond pour créer cette sorte de malaise à la fois chez Eva et puis j'espère qu'il se ressent en fait à la lecture de tension entre l'humour et le tragique, et j'adore cette tension-là, c'est quelque chose que je trouve très beau dans les fictions que je lis, donc j'avais envie d'essayer de reproduire cette... Enfin, moi, personnellement, les récits me touchent plus quand ils sont tragiques par le biais de la dérision et de l'humour que dans le pathos. Et j'avais envie d'éviter le pathos, ce qui n'empêche pas, en fait, le côté tragique et triste du moment, mais qui l'attrape par un angle différent et que j'avais à cœur d'attraper parce que personnellement, c'est un angle qui me touche plus dans la vie, de prendre les choses par un angle plus rigolo qui, en fait, n'empêche pas la tristesse, évidemment, mais...
Alors on va prendre un exemple, si vous voulez bien, Camille Isler, pour parler justement de ce qui se passe dans Un chat à trois pattes, donc paru chez Grasset. C'est dans ce cérémonial un peu ridicule, les enfants, donc les neveux d'Eva, vont se mettre à chanter « So long Marianne », avec des paroles modifiées, avec une partie en hébreu phonétique, parce qu'il ne parle pas hébreu, et en plus en chantant extrêmement faux. Alors on imagine tout à fait le tableau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du ridicule de la scène, qui est quand même assez accompli, cet élément-là va être un élément important justement par rapport à la psychologie et la description que vous faites du personnage du frère, qui est un personnage très lisse, très lisse. Et en même temps, Eva va découvrir que ce personnage qu'elle imagine très lisse, propre sur lui, parfait, etc., est tout à fait conscient du fait que ses gamins chantent totalement faux. Et elle va donc percevoir une facette différente de son frère. Et c'est là encore une fois, la question sous-jacente du roman qui est qu'on ne connaît jamais ses proches et qu'à chaque fois, on peut être surpris. Alors, ça va être le cas du frère et ça va être le cas essentiellement de la mère. On va y venir dans quelques instants. Mais c'est une des questions récurrentes de ce roman, Camille Isler, c'est ces gens avec qui on a passé des années, avec qui on a traversé toute une partie de nos vies. On n'en sait pas grand-chose, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ce moment où, en fait, elle va boire un verre après cette cérémonie avec son frère. C'était une manière de dire, effectivement, qu'il y a toujours une part de ses proches qu'on ne connaît pas, qu'on se fait, en fait, et je crois que la famille est particulièrement propice à ça, on se fait un peu de ses proches une image immuable qui est très difficile à défaire. Je pense aussi pour les enfants par rapport à leurs parents. J'ai plein de gens autour de moi qui ont beau avoir pris 30 ans, avoir énormément changé, sont toujours ramenés par leurs parents à une vision très enfantine, à des défauts qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient enfants. J'ai l'impression que particulièrement les gens qui sont proches de nous peuvent avoir une image un peu immuable et puis qu'il y a toujours une part de nos proches et des gens qui nous ont accompagnés pendant le plus longtemps, qui nous restent absolument inaccessibles et mystérieuses. Et j'avais envie de traiter ça aussi parce que ce personnage de frère, mais globalement les personnages du roman dans l'ensemble, j'avais envie que ce soit pas des monstres ni des personnes idéales, mais de parce que ce frère au départ, enfin, on le trouve quand même un peu ridicule, on peut le trouver éventuellement imbuvable. Et à ce moment-là, il a aussi cet élément un peu plus touchant, cette fragilité qui tout d'un coup se révèle et qui permet de dire. La plupart du temps, autour de nous, enfin, c'est très rare qu'on ait de véritables monstres, et à l'inverse, c'est très rare qu'il y ait de véritables exemples et de gens qui soient perpétuellement exemplaires. Ça n'arrive jamais, ça pour le coup. Et donc, j'aimais bien l'idée que même ce personnage-là, qui est quand même un, je dirais peut-être un des personnages les plus négatifs du roman, quand bien même il n'est pas vraiment négatif non plus, même lui, en fait, ne soit pas du tout quelqu'un de détestable. Il a un point de vue, en plus, on ne le connaît que par le filtre d'Eva, en fait. Mais il n'est pas absolument détestable non plus. Et il reste quand même un mystère tout le long. En fait, tout le long, ce qui ressort, c'est qu'elle ne le connaît pas. Ils ne se connaissent pas, en fait, les deux. De même qu'elle ne connaît pas vraiment sa mère, et que sa mère ne la connaît pas, et qu'en fait, tout ça est une histoire de méconnaissance des uns des autres et d'imaginaire qu'on se fait des autres à partir de ce qu'on a réussi à attraper, en fait.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a cette méconnaissance, mais il y a quand même quelques éléments, j'allais dire, tangibles. C'est-à-dire qu'au cours de cette discussion, il va quand même déraper vers un « nous les hommes ». Et le personnage féminin, donc ce personnage d'Eva, est très sensible à ce genre de choses. Et c'est normal. Et à partir du moment où il y a le « nous les hommes », et ben c'est fini parce qu'il va déraper et il va partir dans son couplet et elle peut plus ça, elle peut plus.
Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'était aussi quand même qu'il y ait ce dérapage à la fin de cette discussion parce que, mais de la même manière, en fait, c'est un truc qu'elle peut absolument pas entendre parce que c'est un truc absolument inaudible à ce moment-là, ce qu'il dit. Et en même temps, j'avais pas envie non plus de tomber dans la facilité d'un conflit ouvert, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup de mal de lui, mais en fait, elle ne lui dit pas grand-chose. Elle fait que s'en aller, en fait, face à lui. En fait, elle fuit plutôt le conflit. Et lui, ce qu'il dit, c'est quand même fait un propos tristement banal. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Il dit pas un truc absolument horrible, il dit un truc parfaitement sexiste et misogyne, mais qui est aussi quelque chose qu'on entend à longueur de journée. Donc, c'était aussi pour jouer comme ça, encore une fois, sur... C'est déjà le côté parfaitement ordinaire des réflexions sexistes et le fait qu'on peut quand même les entendre aussi de la part de gens extrêmement proches et que ça pose dans ces cas-là aussi un hiatus qui est de l'ordre de bah, y a aussi ces gens-là qu'on peut pas totalement supprimer de nos vies parce qu'on les trouve sexistes. Un frère, ça se garde. Donc, qu'est-ce qu'on fait de là? Est-ce qu'on, enfin, on peut le supprimer, mais peut-être pas pour une réflexion de ce type quand même. Ce serait peut-être beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on rentre en conflit? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas? Et je crois que les conflits politiques en famille, ça c'est pareil, c'est un réservoir de fiction incroyable parce qu'en fait, ce sont des conflits qui se règlent jamais, dont on ne sait jamais s'il faut les faire attendre, s'il faut faire comme s'ils n'existaient pas, s'il faut les mettre sur la table constamment. Et on fait rarement véritablement changer d'avis ses proches, a fortiori ses parents politiquement, c'est assez difficile, ça prend des années, souvent on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Elle, elle fuit à ce moment-là. Il doit y avoir peut-être d'autres confrontations à venir sur d'autres sujets. Mais j'avais envie aussi... déjà, ça me permettait de casser à ce moment-là le côté, pour le coup, très nostalgique de la scène avec quelque chose qui... un moment un peu plus fort. Et puis, ça permettait aussi de montrer de la part d'Eva, d'emblée, ce caractère un peu double de... Elle ressent énormément de choses. Elle est très en colère, globalement, contre plein de choses. Mais elle subit, en fait, énormément, parce qu'en fait, elle ne rentre pas dans un rapport actif de confrontation. Et c'est souvent le cas, en fait, derrière, au fil du roman.
alors effectivement, elle n'est pas dans l'action, Eva, et c'est ce qui la caractérise, et pourquoi pas. Justement, c'est tout le questionnement aussi du livre « Un chat à trois pattes » de Camille Isler, paru chez Grasset. Mais quand même, ce roman, c'est aussi un roman d'émancipation féminine. Et je crois que c'est très important aussi de voir cet aspect-là. Ça part depuis cette réflexion, mais ça remonte en amont, puisqu'elle évoque également la transmission mère-fille au travers des rapports qu'elle avait avec sa mère. Il y a une page où elle dit mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé des règles, des pertes blanches, enfin plein de choses. Et puis, il y a tout ce questionnement qu'elle débute toute petite fille, avec pourquoi ça me fait des chatouilles dans la culotte, toutes ces choses du corps de la femme qu'elle va envoyer à sa mère et qui n'auront pas de réponse. Et tout ce cheminement qui fait qu'on devient femme, là, on le suit avec Eva, qui va donc découvrir son corps, découvrir ce que ça sous-entend, découvrir le féminisme au travers d'un personnage que j'aime bien, qui est un personnage libraire qui s'appelle Amanda, au travers de discussions aussi avec son grand amour Natalia. Mais il y a vraiment un parcours d'émancipation qui se fait.
Oui, tout à fait. En fait, j'avais envie d'écrire quand même un parcours féminin qui aille en fait du début quasiment de sa vie au moment présent où elle a une trentaine d'années. Parce que je crois que ce récit de construction assez difficile depuis l'enfance et particulièrement au moment de l'adolescence est un récit qu'on connaît assez peu dans ses détails de ce que c'est que cette confrontation à cette construction de femme qui est quand même extrêmement difficile, qui est remplie d'embûches et quand en particulier on n'a pas la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience d'une mère ou même d'une personne plus âgée, peu importe, ça rend les choses extrêmement solitaires et extrêmement difficiles. Et c'est ce que connaît Eva, c'est-à-dire un parcours où, en fait, elle tâtonne, elle essaye de se trouver toute seule, mais en fait, elle est pas aidée. Elle est pas aidée ni au moment de sa découverte du désir, ni au moment de ses règles, ni au moment où elle aurait besoin d'aide parce qu'elle est absolument terrifiée à l'idée de l'arrivée un jour ou l'autre d'une potentielle sexualité, et personne ne l'aide, et finalement, bon, elle s'en sort comme elle peut. Elle vit des choses qui sont, je crois, celles de beaucoup de femmes, rien d'extraordinairement exemplaire, là encore, en fait. Mais j'avais envie d'un récit qui parle de ces choses qui sont absolument banales, de rapport à un corps qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on apprend à connaître, de fait, avec le temps et avec les expériences, mais très souvent, du coup, au travers d'expériences un peu traumatiques, parce qu'on n'a pas les armes pour faire autrement, parce qu'on ne les donne pas. Alors, ce n'est pas qu'une question de mère, d'ailleurs, un père pourrait le faire, l'enseignement pourrait le faire, à l'école, peu importe. Et tout ça, ça ne lui est pas donné. Et donc, elle tâtonne un peu comme elle peut. Mais finalement, elle arrive quand même à avancer dans cette évolution qui se fait lentement, qui se fait effectivement beaucoup, en fait, au travers du personnage d'Amanda, qui va devenir ce personnage, alors c'est pas forcément un mentor, mais en tout cas c'est tout d'un coup une forme d'amitié avec quelqu'un de plus âgé qui connaît, qui a de l'expérience et qui va enfin lui transmettre un certain nombre de choses. Et elle va trouver là-dedans une émancipation, évidemment, ainsi qu'avec Natalia. Mais finalement, c'est par l'expérience qu'elle-même elle arrive à se sortir un peu du carcan de cette féminité obligatoire qu'on lui impose. Et je trouvais ça important de retracer un parcours à partir du début, dans tout ce qu'il peut avoir de très moche et de très dur par endroits, et puis aussi dans sa beauté, parce qu'il y a quand même de grands moments de beauté dans la découverte de l'amour et de la sexualité. Heureusement, ça n'est pas qu'agression et moments de traumatisme personnel. Et voilà, j'avais envie de raconter comme ça une histoire de construction de soi qui aille vraiment depuis l'enfance, parce que je trouvais important de raconter à la fois une émancipation qui, encore une fois, n'est pas du tout exemplaire. À la fin, c'est pas... Eva, ce n'est pas un exemple de féminité subversive, révoltée, mais elle arrive quand même quelque part, elle s'en sort, en fait. Elle s'en sort comme elle peut, mais elle essaye d'avancer quand même si tout est un peu difficile.
Oui, si je devais résumer, je dirais qu'elle va de la découverte du désir jusqu'à la possibilité de dire finalement non. Mmh. Et c'est pas rien quand même comme chemin.
Bien sûr, bien sûr. C'est un chemin. Enfin, moi, je trouvais que, puisque ça, quand même, toute la construction d'Eva est quand même très axée autour de cette question du désir, on arrivait à cet endroit incroyable de dire, ben, là, j'ai la possibilité de dire ce que je veux, de dire comment je le veux, et de dire, en fait, je ne le veux pas, ou finalement, je me suis trompée, c'était pas comme ça que je voulais que ça se passe. Et d'avoir en face quelqu'un qui écoute, ben, c'est déjà un énorme accomplissement. Ouais. C'est un accomplissement qui, en fait, on se délite un petit peu derrière, quand même, parce qu'on se rend compte que c'est jamais un acquis, quand même, je trouve. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un jour où tout d'un coup, on arrive complètement à se dire, voilà, là, j'ai atteint le point d'arrivée. Ça y est, je sais où j'en suis, tout est fait. Je crois que tout ça est un cheminement fait d'aller-retour constant, mais il y a quand même une évolution sensible.
Alors, on va parler du personnage de la mère, Camille Isler, parce que c'est quand même le sujet aussi de Un chat à trois pattes paru chez Grasset, puisque cette mère mourante est dans une chambre de deux. Il y a un voisin et que, alors que Eva est seule avec sa mère, d'un seul coup, le voisin va se mettre à péter. Et elle est au bord du fou rire et elle a la grande surprise de voir sur le visage de sa mère, inconsciente, quelque chose qui ressemble à un sourire se dessiner. Et là, elle tombe des nues parce que sa mère, c'est l'antithèse du sourire. Sa mère, c'est la rigidité, c'est la froideur, c'est l'absence d'émotion, c'est le contrôle en permanence. Et cette ébauche de sourire va l'amener à se questionner sur savoir qui est vraiment sa mère, qu'est-ce qu'elle connaît d'elle, quelle femme se cache derrière cette apparence de rigidité. Elle va pour ça trouver une pochette qui contient différents éléments, et à partir de cette découverte, elle va mener une véritable enquête pour essayer de comprendre ce qu'a été le chemin de cette femme qu'est sa mère.
Oui, tout à fait. Alors, ça commence effectivement avec ce sourire qui lui est arraché vraiment dans ces derniers moments par la chose en plus la plus ridicule qui soit. C'était l'idée aussi de, encore une fois, de casser un peu le moment dramatique par un truc complètement absurde et qui, en plus, dans la vraie vie, arrive et fait rire vraiment. Enfin, je crois, dans ces moments dramatiques, a fortiori, parce qu'on est en plus dans un état de nervosité tel que c'est quasiment intenable. Et puis donc, elle se lance dans cette enquête au travers d'un dossier qu'elle va trouver effectivement chez sa mère. Il s'avère, ce que j'avais envie de faire au travers de cette enquête, c'était à la fois qu'elle trouve des solutions et puis qu'on ne sache jamais vraiment si les solutions qu'elle trouve sont de véritables solutions ou des choses qui lui font plaisir, en fait. On ne sait pas trop si c'est ce qu'elle a envie de voir, si c'est vraiment ce qu'elle voit. Si... Et finalement, ce que j'aimais au travers de cette petite biographie, en fait, de la mère faite au travers de l'œil de la fille et puis au travers, en fait, de photographies, donc rien de très certain la plupart du temps, c'était qu'en fait, on a une interprétation qui nous est donnée et nous, on ne sait jamais vraiment ce qu'a été cette mère de manière objective. On est tout le temps pris dans ce qu'Eva interprète. Et ce personnage du voisin, justement, il est aussi là, parce qu'il va intervenir ensuite au sein de cette enquête, pour ramener un peu les choses au sol et rappeler que tout ça est quand même de l'ordre de l'interprétation. Et ça me semblait important parce que j'avais pas envie... de faire une enquête qui a un point de départ, une arrivée, et qu'on se dise, voilà, c'est résolu, elle cherchait ça, elle a trouvé, le livre se termine, et puis... Non, finalement, elle va buter complètement contre le côté déjà complètement éclaté des témoignages qu'elle va trouver, des photos, des lettres, des machins mal rangés, qu'elle n'arrive plus trop à dater, enfin, dans lesquels elle va essayer de trouver des solutions. Et puis finalement, on a un semblant de réponse dont on ne sait pas si c'est la réponse qu'elle voulait trouver ou si c'est vraiment la réponse. Et puis surtout, on a un portrait de la mère qui est encore plus éclaté qu'au départ, presque, qui est certes différent de la rigidité qu'elle pensait être l'entièreté du personnage de sa mère, mais qui en fait ne donne pas vraiment de solution non plus, parce qu'encore une fois, on ne trouve jamais un portrait univoque d'une personne en général. C'est très rare qu'on puisse dresser un portrait absolument clair de quelqu'un. Et donc j'avais envie que finalement le fil de cette enquête soit aussi une révélation pour elle-même, finalement, plus que pour ce qu'était sa mère, parce que finalement, ce qu'on va chercher, c'est nos parents. Je crois que, surtout dans ces moments-là, c'est une manière de vivre un peu près tranquille derrière et d'essayer de se rassurer sur le fait qu'on les connaît, surtout quand ils sont sur le point de décéder. Il y a une idée de « bon, j'ai envie de résoudre ça maintenant ». Finalement, ce n'est pas vraiment résolu, mais ça donne une manière d'avancer.
Thank you. goodbye to me, and then he washed it down with a bite of you. The same worms that eat me will someday eat you too. Nibble on my toes, they become the same when our bodies decompose. You'll turn into dirt someday, same dirt as me. Like one becomes a two and two becomes a three. The same worms that eat me will someday eat you too.
Alors, vous avez évoqué le personnage du voisin. Ce personnage, il est très important, Mr. Magoo, parce qu'il est assez fantastique dans tous les sens du terme, et puis parce qu'il a, j'allais dire, une dimension de passeur qui est assez intéressante.
Oui, c'est un personnage qui commence par être décrit uniquement sur le mode un peu du ridicule, précisément avec cette scène où il pète alors qu'elle est en train d'être extrêmement touchée par ce qui se passe en face de sa mère. On le décrit au départ par ses doigts de pied recroquevillés derrière sous le drap, enfin, et puis qui s'avère finalement être beaucoup plus qu'un personnage grotesque, puisqu'il va... ils vont se rapprocher les deux et créer un duo absolument improbable pour déchiffrer ces documents. Et lui va lui permettre de... Il vient poser des limites quand elle va trop loin, il vient lui donner des éléments sur les choses qu'elle ne maîtrise pas dans les documents qu'elle va retrouver. Donc il sert vraiment finalement un peu de révélateur, à la fois dans l'enquête et puis à la fois à Eva, parce que finalement c'est lui qui la ramène aussi un petit peu au sol quand elle commence à partir trop loin dans ses interprétations. Et puis c'est un personnage un peu mystérieux, puisque il a ce penchant complètement mythomane où on sait pas vraiment s'il raconte on sait jamais s'il raconte la vérité ou pas. On sait pas vraiment pourquoi il est là, on sait pas vraiment s'il est sur le point de mourir parce qu'ils sont quand même dans une unité de soins palliatifs ou pas, on sait pas pourquoi il est à l'hôpital. Et puis finalement on se demande vraiment comment ?
Finalement, on ne sait rien.
Voilà, on ne sait rien de lui. Il est un peu comme une apparition fugace pendant cette nuit là où elle va enquêter à l'hôpital. Et il est là comme une espèce d'allié inespéré. Et puis, en fait, après, alors elle continue sa vie. Et il est, voilà, de manière très épisodique, comme une rencontre à la fois absolument essentielle et puis avec cette conscience qu'elle a en repartant à la fin que, bon, voilà, elle va pas entretenir cette relation plus longtemps que pendant cette nuit-là, finalement. Donc, c'est une espèce de parenthèse, et il aide beaucoup à créer cette parenthèse et à créer un peu d'enchantement aussi, je crois, dans cette parenthèse.
Et puis, dans Un chat à trois pattes de Camille Isler, paru chez Grasset, il y a aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est importante, qui est l'histoire avec Natalia, qui s'entrelace avec tout ce qu'on a évoqué et que j'ai trouvé extrêmement belle et touchante aussi.
Oui, il me semblait important que... Enfin, j'avais vraiment envie que le personnage d'Eva ne se définit pas vraiment, mais de manière très matérielle, elle a une vie de bisexuelle au fil du livre. Et elle a cette histoire centrale, qui est une histoire avec une femme, Natalia, que j'avais vraiment envie de raconter, là encore, du début à la fin. Et puis, comme une suite de tableaux que je trouvais très jolie, c'est-à-dire voilà, la rencontre avec ce que peut avoir de beau, mais aussi d'extrêmement gênant, une rencontre amoureuse. Je trouve que dans les moments de séduction amoureuse, il y a une espèce de conscience de son propre corps qui devient extrêmement... Le mouvement de main n'est pas naturel, le corps pèse beaucoup plus lourd, le cœur va beaucoup plus vite, tout devient extrêmement désagréable. Et en même temps, il y a une espèce d'enchantement là-dedans, et j'avais envie de raconter cette rencontre de la manière, encore une fois, la plus proche du corps possible. Avec ce personnage d'Eva qui est extrêmement embarrassée, en face de ce personnage de Natalia qu'elle prend en fait au départ comme une sorte d'inverse d'elle-même, qui est extrêmement à l'aise, qui est extrêmement exubérante. Mais en fait, bon, encore une fois, est-ce que c'est pas le point de vue d'Eva qui la rend comme ça à ce moment-là ? Tout ça est extrêmement difficile à démêler. Et donc j'avais envie de raconter cette rencontre du début, de coup de foudre en fait qu'elle a un peu pour elle, même si bon, le coup de foudre ne veut pas dire grand chose, mais quand même il y a une espèce d'attirance instantanée, les moments d'une première sexualité qui tout d'un coup va sembler beaucoup plus évidente, et là encore attraper la sexualité par tout ce qu'elle peut avoir de drôle, de bruits bizarres, de choses un peu gênantes, mais dont on s'accommode, parce qu'en fait j'avais aussi un peu envie de parler de sexualité en sortant un peu de la description érotique très enjolivée de la sexualité, parce que c'est aussi drôle, c'est aussi un peu ridicule par moments, c'est aussi, et c'est ce qui fait la beauté de la sexualité, je crois, c'est quand on a cette complicité qui fait que c'est aussi des moments d'humour, c'est aussi des moments où on s'arrête, on recommence, on se plante, on fait des conneries, on tâtonne, on découvre un corps qui n'est pas le sien, avec lequel on est bien obligé de chercher, on ne trouve pas immédiatement. Et puis, je trouve que la sexualité, quand elle est belle, c'est aussi de dire, voilà, non, là, il y a eu... c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça. Et puis, je crois que la sexualité, où on part du principe que, en fait, tout est réussi d'emblée, c'est qu'en général, ça se passe pas très bien. Ouais. Donc, j'avais envie de raconter ça. Au contraire, qu'une sexualité qui se passe bien, c'est un moment où on va trouver joli des choses aussi un peu ridicule, un peu drôle, un peu raté. Et donc j'avais vraiment envie de raconter ce moment-là. Et puis derrière, tout ce moment de relation où ça se déroule entre elles. Et puis j'avais aussi envie de raconter la fin, comment cette relation se finit. Là encore aussi par une suite de tableaux, en fait, de saisir trois moments qui font qu'une relation se délite plutôt que de raconter tous les détails d'un délitement long. Et de l'attraper encore une fois par le détail, par tout d'un coup, c'est pas une fin qui est dramatique, c'est pas une fin qui est toxique, c'est pas une fin, c'est une fin comme il s'en passe plein, où tout d'un coup, l'amour se délite lentement, on essaye de le sauver pendant un moment, puis ça marche pas, et vient le constat final et qui est terrible pour Eva parce qu'elle s'en remet en fait très très difficilement. Et en même temps, elle s'en remet très difficilement, mais sans jamais se dire que sa relation sans jamais noircir cette relation qu'elle a eue, en fait, parce que c'est une relation qui a des endroits moches, comme beaucoup de relations ont des endroits moches, mais qui, dans son ensemble, est une relation qui, je crois, est belle, même dans ces moments de laideur, parce que c'est des moments de laideur dans tous les couples, et tous les couples ont des moments de friction, des moments où l'un et l'autre est injuste, où émotionnellement, on va se venger un peu sur l'autre sans raison, sans que ce soit absolument horrible. Donc j'avais envie de montrer quand même ces moments un peu durs aussi quand même dans les couples qui existent, et puis que ça se finisse comme ça de manière à la fois assez brutale et en même temps assez jolie, je crois, parce que finalement c'est un couple qui a marché, qui marche plus, voilà, comme ça arrive la plupart du temps, comme ça doit arriver dans les meilleurs scénarios, en fait, finalement, où on se quitte parce qu'on a passé le temps qu'il fallait qu'on passe ensemble, et puis pas pour des raisons dramatiques, c'est bien aussi.
On laissera nos auditeurs découvrir cette histoire d'amour, Camille Isler, avec effectivement ces moments de creux, ces moments de plein, ces scènes humoristiques. Et puis on comprendra pourquoi le livre s'appelle Un chat à trois pattes aussi en lisant la fin du livre. En tout cas, moi j'en recommande la lecture. C'est paru chez Grasset. Et puis, question traditionnelle, quand on a un auteur de premier roman en interview, c'est « Et alors ? Et maintenant, vous travaillez sur autre chose ?» La suite
J'aimerais bien m'y mettre. J'ai déjà une idée de deuxième roman en tête. Pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose parce que c'est quand même franchement des bribes d'idées. Mais j'ai quand même envie de poursuivre un peu, en tout cas dans cette voie-là Enfin, je crois que j'ai vraiment envie de continuer à explorer cette tension, en tout cas entre le grave et le drôle, parce que j'aime bien ce ton-là et qui m'importe. Et puis que je trouve qu'on manque quand même un peu de fiction dont les personnages sont des femmes, dont les personnages principaux sont des femmes et qui sont drôles et dramatiques en même temps, mais qui sont... Moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir sous la main, donc j'aime bien explorer cet endroit-là. Donc, là-dessus, je pense que je continuerai. Je continuerai aussi à avoir des personnages... de femmes que j'aime dépeindre de manière complexe, contradictoire et pas comme on attend que les portraits de femmes soient. Donc voilà, là-dessus, je vais essayer de rester là-dessus, mais en tout cas, j'aimerais bien continuer à écrire parce que j'aime bien. Et maintenant que j'ai réussi à en finir un, j'aimerais bien finir un deuxième.
Et ben, suite au prochain, j'espère.
Avec plaisir.
En attendant, lisez Un chat à trois pattes de Camille Isler, c'est paru chez Grasset. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et puis oui, j'espère à une prochaine fois.
Ben merci à vous, c'était un plaisir d'échanger de manière aussi intéressante sur le livre et merci pour cette lecture très fine et pour tous ces échanges très intéressants.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz, et c'était Camille Isler sur Radio Libertaire pour son roman intitulé « Un chat à trois pattes » paru aux éditions Grasset. Et maintenant, on retrouve Gérard Guégan pour une chronique fort riche où il sera question de trois ouvrages. On le retrouve tout de suite. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve Gérard Guégan pour sa chronique au cours de laquelle il va nous parler de trois ouvrages et pas n'importe lesquels puisqu'on va parler, et je pense que tu en parleras en dernier, d'Horace McCoy, ce qui est quand même tout un programme. Mais bon, on va commencer peut-être par Frédéric Vitoux, non ?
Absolument, absolument. On va commencer sur un jeu de mots. On va dire que ces trois livres, c'est... Noir roman et roman noir, parce que l'un, les deux derniers, qui sont un livre de Carlo Lucarelli, un Italien qui avait publié d'ailleurs à la série Noire, et qui publie maintenant chez Métellier, donc un roman qui s'appelle Péché mortel, qui a aussi un titre de noir roman, roman noir. Puis il y a l'Horace McCoy, et ça s'appelle Roman noir, donc on peut dire qu'on va... Le roman noir étant a priori un roman dit policier aussi, c'est vrai pour Carlo Lucarelli, mais c'est pas si vrai que ça pour McCoy, parce que McCoy c'est pas Chandler, c'est un autre univers, c'est plutôt presque du roman social, c'est plutôt du roman balzacien si je puis dire, c'est-à-dire dans Balzac il y a toujours un aspect de roman noir ou de roman policier, il y a toujours des ténébreuses affaires, il y a des personnages qui sont capables de changer la face de Paris et tout ça, et bon bref, ce sont donc des romans balzaciens. Alors on commence par un roman qui n'est pas balzacien mais qui est plutôt à l'ombre, j'allais dire, de Mauriac, de François Mauriac, puisque c'est L'assiette du chat de Frédéric Vitoux, qui est lui-même académicien, comme l'était Mauriac, peut-être qu'il a remplacé aussi, d'ailleurs, j'en sais pas, je ne suis pas ça de près. Mais dans le titre est un piège, parce que ça s'appelle l'assiette du chat, et qu'on s'attend au mieux à du Colette, c'est-à-dire ce côté nostalgique où on repense à la petite enfance, il y a le chat, l'assiette dans laquelle il vient laper le lait, tout ça, etc., etc. Sauf que c'est un piège, parce qu'en fait, on va très vite découvrir que le sujet central du roman, c'est une histoire de des histoires de famille. Donc, et les familles ont toujours des histoires qu'elles ne racontent pas forcément, qu'elles cachent bien évidemment. Et donc, c'est comme ça que se transmet les malaises dans les familles. Donc là, en l'occurrence, il y a deux femmes. C'est un roman sur deux femmes. L'une est dite sœur de lait, comme le dit Vitou, c'est assez étrange dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, sœur de lait. C'est-à-dire qu'il a été nourri sans doute par sa vraie mère, qui était donc plutôt une domestique au service de sa grande famille, c'est-à-dire du grand-père et de la grand-mère, et qui était probablement l'enfant que le grand-père, en commettant l'adultère, lui avait fait à cette femme. Donc on lui avait permis de rester dans la maison et dans l'appartement grand bourgeois, et en même temps, et de garder son enfant qui était levé en même temps que le père de Frédéric Vitou. Donc le père de Frédéric Vitou a eu une sœur de lait. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en a fait ensuite et comment il a vécu lui-même. Ce n'est pas lui qui a laissé un texte là-dessus, c'est le fils qui parle de son père. Et donc cette fille qui s'appelle Odette, est contrebalancée par une autre femme qui s'appelle Clarisse, et qui, elle, semble, est très attachée à la grand-mère, donc à la femme, à l'épouse de l'adultérin, si je peux dire. Et on se demande si elle est attachée par pure sympathie ou par pure admiration au personnage de sa maîtresse, et si le mot maîtresse n'est pas un mot qui conviendrait dans un autre sens à définir leur liaison. C'est très étrange, j'arrive pas à savoir. Et peut-être qu'il faudrait encore que je le relise. Comme d'habitude, je lis en général deux fois les livres dont je parle. Mais il me semble que ça reste comme ça. C'est le talent de Vitou de faire planer une ombre dont on ne sait pas très bien si oui ou non. Et c'est en ça que c'est un roman noir. C'est donc non seulement un roman sur la noirceur, peut-être des relations humaines parfois, mais c'est aussi un roman noir dans la mesure où on pourrait penser que, comme ça, c'est un détective qui écrit ses souvenirs. Je ne sais pas, c'est très étrange. Et c'est en ça que c'est assez remarquable. Et que c'est passionnant à lire. D'autant que, à l'intérieur de cette dualité féminine, il y a aussi d'autres personnages, et en particulier un cousin, Jojo, qui est un cousin chez lequel se rendait avec plaisir le jeune Frédéric. Et c'est un cousin qui vivait, qui partageait son appartement avec un homme. Et ce n'est que plus tard qu'il a compris. Que Frédéric a compris qu'en fait ils étaient amants, et que donc quand lui venait en vacances chez son oncle, rien de tel ne se manifestait dans le comportement. Peut-être d'ailleurs n'aurait-il pas compris dans son tendre âge ce que ça voulait dire. On peut très bien caresser un homme sans que ça traduise pour autant une relation homosexuelle. Donc au fond, chez lui, tout se mélange. Donc j'ai dit tout se mélange, et c'est ça qui fait, là encore une fois, le charme du livre. Et c'est en ça que ça se distingue de Mauriac, parce que Mauriac, quand c'est noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Lui qui aimait Johnny Hallyday, c'est tout à fait ça. Mais le titre, L'assiette du chat, c'est aussi le goût de la vie. Et ce mélange au noir de la plupart des situations, ou en tout cas de l'atmosphère, parfois, du livre, du rose, ou en tout cas une couleur claire, une couleur qui fonde l'espérance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très fort. Et s'il y a un écrivain, alors, auquel on pourrait le rattacher. Je pense que Vitou appréciera qu'on aura ce rapprochement. C'est à Calais qui raconte son enfance, qui a fait l'objet de plusieurs de ses livres. Même lorsque, et eux c'était une famille pauvre, à l'inverse de la famille de Vitou, donc c'est une famille où on tirait le diable par la queue, mais il n'empêche que chez Calais, c'est tout le temps contrebalancé par des souvenirs heureux. Voilà. Voilà pour le premier.
Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. Now when he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Yes, it keeps on raining all the time. Say, when he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. The Lord above will let me walk in the sun once more. I can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining on. Keeps on raining all the time.
Alors, on va passer au second, donc, qui est paru chez Métayer.
Voilà, du roman italien. Oui, oui, c'est ça. Donc, le roman italien, Carlo Lucarelli. Donc là, c'est en fait ce qui paraissent chez Métayer, qui sont d'ailleurs excellents, ces livres, sont le personnage est un commissaire qui s'appelle De Luca, en deux mots, et qui s'inscrit dans la tradition, j'allais dire, simenonesque, entre autres, mais il y a aussi Ed McBain avec son fameux inspecteur Carella du 87e district.
Célèbre,
oui, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Oui. Carella, Ed McBain, qui était d'ailleurs, en fait, ce n'était pas son nom, c'était Salvatore Lombino. Donc, il était italo-américain et il a préféré choisir Ed McBain pour écrire cette chronique du 87e district d'une ville qui ne s'appelle pas New York, mais Isola. Et le 87e district n'existe pas non plus dans la réalité. Il a inventé tout un monde. Et c'est à cheval de tout ça, Carlo Lucarelli, parce que le commissaire fait évidemment penser à Maigret, comment ne pas penser à Maigret, surtout qu'il est un peu lent, un peu lourd, un peu, mais en même temps il est séduisant puisque il a une fiancée, non, c'est pas vraiment une fiancée, mais en tout cas il partage une partie de sa vie, et il est amoureux d'une pharmacienne de la bourgeoisie. Ça se passe d'ailleurs à Bologne, pardon, j'ai oublié de le dire. Donc c'est une ville que j'aime beaucoup aussi, Bologne, qui est pas loin de la mer et qui explique beaucoup de choses dans ce livre. En tout cas, surtout, c'est pas ça le centre du l'importance du livre. L'importance du livre, c'est que Lucarelli s'est attaché au fond à peindre l'Italie des années 20 et 30, des années 30 plutôt, années 30 et 40, c'est-à-dire de l'époque fasciste. Dans ce roman, c'est ce moment historique important, qui commence le 25 juillet 1943 et qui s'achève, si je puis dire, qui s'achève momentanément le 8 septembre de la même année, c'est-à-dire la période où, un matin, on entend à la radio que Mussolini a été renvoyé, oui, parce que ce n'est pas encore le sort tragique qui sera le sien à la fin, mais qu'il a été, donc, on l'a mis à pied, hein, c'est, oui. Il n'y a pas autre chose. Donc, le roi a repris le pouvoir, un maréchal a surgi, bon bref, donc Mussolini n'a plus le pouvoir. Et là-dessus, il y a l'annonce quelques jours après que le parti fasciste est aboli et qu'en plus, les Italiens se retirent, vont signer la paix avec les forces alliées qui sont en marche depuis la Sicile vers le nord de l'Italie, et à ce moment-là, ça se situe au centre de l'Italie. Et c'est à ce moment-là que lui, c'est un commissaire d'affaires criminelles. C'est pas la police politique. Il y avait évidemment la sinistre Ovra, qui était la police politique italienne, fasciste. Lui, c'était un homme qui enquêtait sur les crimes et les meurtres. C'était un flic de base, si je puis dire. Parce que le vrai pouvoir, c'était les fascistes, c'était la police fasciste. Mais quand même, à l'intérieur de ça, donc, il se retrouve dans une histoire de drogue, d'assassinat, d'hommes sans tête. C'est-à-dire qu'on trouve un premier cadavre sur les bords du fleuve du Pô, donc il n'y a pas de tête, il n'a pas de tête. Et puis ensuite, on retrouvera une tête. Bon, c'est... Et pendant ce temps, évidemment, la ville, dans la ville, c'est les manifestations de moins en moins spontanées, c'est-à-dire de plus en plus organisées, avec les communistes en tête, les drapeaux rouges, les chansons qu'on n'avait pas entendues depuis
des années.
Des années. Donc, et en même temps, les fascistes qui, la veille, portaient, se paradaient dans leur uniforme noir et tous portaient à la boutonnière quand ils n'étaient pas en uniforme l'insigne fasciste. Et d'ailleurs, le commissaire De Luca le portait aussi, c'était obligatoire pour tous les fonctionnaires de l'État. Il ne pouvait être que fasciste, voire juré et voire prêter serment à Mussolini. Et donc, dans cette période-là, qui est donc une période tumultueuse, et qui, bon, pour un lecteur français, peut-être sera surpris par ça, mais bon, et surtout les plus jeunes, ils ne sont pas obligés de connaître l'histoire de l'Italie à ce moment-là, mais c'est la cohabitation entre tout ça, c'est-à-dire que même s'ils ont enlevé leur uniforme, ils sont toujours agissants, et ils n'ont pas été pour le moment encore arrêtés ou fusillés. On est dans une période d'observation et de confrontation. Et quand je dis que le dernier moment, c'est septembre 43, eh bien Mussolini sera libéré par un commando SS qui viendra le chercher et qui le ramènera au pouvoir. Et c'est ce qu'on va appeler la République de Salo, c'est-à-dire que la moitié de l'Italie sera quand même sous contrôle fasciste, donc des villes comme Venise ou Milan seront toujours, au moins au début, sous contrôle fasciste. Et c'est au fur et à mesure de l'avancée des troupes anglo-américaines que les fascistes vont petit à petit reculer et finalement finir vraiment par disparaître. Et puis entre-temps, il y aura eu l'histoire de la résistance, tout ça, etc. Donc c'est un roman assez extraordinaire parce qu'à la fois c'est un roman dont on comprend, dont on se voit bien que l'auteur est très au fait de l'histoire
de l'histoire, oui.
Son pays, voilà. Et en même temps, c'est un vrai roman noir, quoi. C'est un vrai roman policier. Ces cadavres sans tête, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, c'est plus important, si on veut éviter la reconnaissance du cadavre, il me semble que ce serait plus important de lui couper la main, les mains, les pieds. La mafia arménienne coupe les pieds, les Italiens, ils coupaient les mains. Mais bon, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre une identification, par exemple, digitale, et même parfois on arrache les dents pour éviter un truc de dentiste. Bon, bref, tandis que là, c'est que la tête qui est coupée. Donc je ne dirais pas pourquoi.
Ah, parce non, c'est un polar quand même.
J'ai plus à peine de le lire. Voilà. Moi, j'ai pensé aussi à. Le personnage m'a fait penser à un personnage dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, je ne sais même pas si on le lit encore. C'était le Father Brown de Chesterton, et qui était aussi donc là, un prêtre anglais, anglican plutôt, donc qui avait une passion, c'était les énigmes policières, et qui. C'était plutôt un prédécesseur des personnages de Agatha Christie. Ça fait penser à ça, ça fait penser à beaucoup de choses. C'est sûrement un écrivain, comme très souvent avec les Italiens, qui a beaucoup lu et qui lit beaucoup encore. Je sais aussi qu'il fait une émission qui est très, très vue, puisque c'est une émission à la télévision, sur les crimes non résolus.
Ah.
Sur les affaires froides, qu'on dit les cold cases. Voilà. Et ça, c'est sa partie. Mais en même temps, littéralement, on voit bien qu'il a lu, par exemple, pour Bologne, après Bologne, il y a Ferrare. C'était des villes où il y avait en plus un grand nombre de juifs qui habitaient Bologne et Ferrare. Et c'est, hélas, tous ont été arrêtés avant que Mussolini ne chute. Et donc tous, pour la plupart, ont été déportés à Auschwitz. Donc on sent tout ça, voilà. On sent, on est en présence de tout ça. C'est-à-dire que la grande tragédie heurte de plein front la tragédie criminelle qui fait partie des choses de la vie, tandis que de l'autre côté, c'est l'exception, quoi. C'est l'exception et la règle, si je peux me permettre. Voilà.
Mining for gold, but insecurity. Fooled by a trick of the light, are you there? I'm not breaking the mold, I wouldn't feel it. Hold my life in your hands, if you dare. We'll be right back.
five steps back from the past if you did. We wait, way down. We let it all escape. We let it go.
Et d'ailleurs, je pensais en lisant ça, ça donne des envies d'écrire. On se dit, tiens, ça serait bien, mais ça, c'est depuis longtemps. Je me souviens très bien d'un roman paru en série noire et qui plaisait beaucoup à Godard aussi. Il m'en avait parlé. C'était La cinquième femme, qui était un roman écrit par Maria Fagias, qui est paru en série noire au début des années 60 et qui était un policier, donc, de la police criminelle, là aussi, de la police judiciaire, ça dépend des pays, le nom, là où la brigade du crime, bon, bref, qui enquêtait sur des morts à Budapest pendant l'insurrection de Budapest. Donc, pendant ça, les événements de 56. Mmh. Et c'était très étonnant. Parce que quand ça ne sera plus une démocratie populaire, façon de dire qu'elle était ni démocratie ni populaire, mais quand ça en sera fini du stalinisme en Hongrie, sans doute qu'on en fera un film, on n'en a rien fait, et c'est des Français qui s'y intéressaient. Godard avait, je crois, en tout cas posé une option pour les droits, parce qu'elle avait émigré aux États-Unis, cette femme. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que la grande histoire et la petite histoire se heurtent de plein front. Et c'est ça qui est bien. Donc je me disais que les Français pourraient eux peut-être se référer, ils ont un événement à peu près identique, pas vraiment, mais qui y ressemble, c'est le moment où en novembre 42, suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, les Allemands décident qu'il n'y a plus de zone libre et ils entrent dans zone libre, c'est-à-dire la zone dite libre, c'est-à-dire ce qui avait été dévolu à Vichy, et ils occupent tout le sud de la France. Et ça change tout à ce moment-là pour les gens du sud de la France. Certes, Vichy, c'était pas rigolo, mais c'était rien à côté des Allemands qui arrivaient, les services SS, SD, Gestapo, etc. Voilà pour le deuxième. Donc, évidemment, il va de soi que c'est pas la peine de le dire, mais on va quand même le dire. C'est à lire absolument.
D'accord. Et on va attaquer Horace McCoy, et ça c'est quand même un gros morceau, et je suis bien contente qu'on en parle.
Oui. Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands. Hein. C'est pas ça. J'ai jamais compris vraiment. On en parlait entre nous parce qu'on a lu ça. On avait toute une bande de. On avait 15 ans et on lisait ça en série noire. Et on ne comprenait pas pourquoi ça avait paru en série noire. Parce que c'était, par exemple, un linceul n'a pas de poche. C'est un roman sur le journalisme, la corruption. Là aussi, c'est très balzacien comme univers, quoi. Je veux dire, c'est pas en soi vraiment un roman policier. Voilà.
Et on achève bien Les Chevaux, qui est quand même peut-être celui qui est le plus connu aussi parce qu'il y a eu le film. C'est quand même une vision d'une époque, d'un moment de l'histoire, de personnages absolument génial, quoi.
Ah oui, c'est le grand livre sur la crise, parce que à cause de la crise et à cause du manque d'emploi et de tout ce qui s'est abattu sur l'Amérique, qu'on invente des jeux de ce type, c'est-à-dire on va danser, on met en compétition des couples qui dansent jusqu'à l'épuisement et jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort, oui, tout à fait.
C'est ça, mais moi, je sais pas, j'ai commencé ma lecture de ça, c'est par un linceul n'a pas de poche, parce que j'avais trouvé le titre complètement fascinant, quoi. Un linceul n'a pas de poche. Et après ça, il y a eu Adieu la vie, Adieu l'amour, et c'est pareil, quoi. C'était des titres très très forts. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'en même temps, c'était très écrit. C'était par exemple les dialogues sont très importants chez McCoy, et les dialogues, ça valait ceux qui sont contemporains, ceux de Hemingway, évidemment, ça allait aussi vite, c'était aussi net, précis, il n'y avait plus d'emberlificotage, comme il y avait trop souvent dans les dialogues, et même encore aujourd'hui, il y a des romanciers qui écrivent des dialogues, il faudrait mieux les mettre au feu, parce que c'est pas vivant. Un dialogue, c'est la vie, on s'interrompt, on repart, on change. Voilà. Et ça, chez McCoy, c'est tout à fait remarquable. Alors on peut dire que ça vient aussi du fait que pour gagner sa vie, il essayait d'écrire des petites choses et tout ça, mais surtout il a été journaliste. Il a été journaliste et il a vu de près la vie parce qu'il s'est intéressé évidemment à ce qui était le moteur de la ville où il était, qui était une ville texane, qui était Dallas, qui allait devenir célèbre pour d'autres raisons plus tard. Et comment dirais-je? Et donc il porte témoignage et il parle exactement comme on parlait dans un speakeasy qui était les bistrots clandestins. Il parle comme on parle au comptoir, tu veux dire, ses propos, ça part, ça s'achève pas, on change d'idée, l'autre en face renvoie la balle, tout ça, etc. Et c'est ça, et c'est superbe. Donc c'est pas Hemingway qui lui a vraiment rendu hommage. C'est Fitzgerald, ce qui est encore plus étonnant, qui lui a même dédié quelque chose. Il faudrait que je retrouve la dédicace parce que c'est assez superbe. Voilà, je vais y arriver. Oui, et donc, ça disait, c'est sur un exemplaire. Il lui a dédicacé un exemplaire du Gatsby le Magnifique. Et je vais vous lire la traduction. En anglais, c'est plus fort. La traduction, c'est de Scott Fitzgerald, un prophète de malheur, pour Horace McCoy. Il peint un héros du bonheur. Ah. Héros, H-E-R-A-U-T.
Oui, d'accord.
Voilà, peint un héros du bonheur. Et donc, c'était, quand ils ont les mots, ça l'a vraiment touché beaucoup, McCoy. Donc, on n'imagine pas, c'est comme si, je ne sais pas, je ne vois pas très bien à quoi comparer ça en France, mais on peut pas imaginer a priori comme ça. Si on dit ça, on se dit mais comment, qu'est-ce qu'ils avaient à faire tous les deux? L'un c'était il écrivait pour les pulp magazines et l'autre il faisait c'est le cinéma qui les a enfin tous unis. C'est le cinéma et c'est la première guerre. Les Américains se sont engagés souvent plus qu'on ne le pense, et en particulier les intellectuels. Que ce soit par exemple McCoy s'est engagé et très jeune, donc il avait 20 ans, mais il n'était pas obligé de s'engager. Il s'est engagé et il a demandé l'aviation, qui était débutant, luciante. Et il s'est retrouvé effectivement dans ce qui allait être un jour l'Air Force, mais qui n'était pas un mélange à ce moment-là de troupes au sol et de vol. Qui était pas loin de ça et tout ça, c'était Howard Hawks, le grand cinéaste, qui lui-même s'est engagé, donc c'était des pilotes. Donc tous ces hommes ont fait, ensuite sont tous retrouvés à Hollywood, parce qu'à Hollywood, qui était une puissance énorme, qui était sûrement un des grands, grands plus employeurs d'écrivains de l'Amérique et du monde, les tycoons, les tyrans du cinéma, employaient les écrivains. Dès qu'un écrivain avait un peu de talent, qu'il avait été remarqué par la presse et tout ça, les maisons de production prenaient contact avec lui et l'engageaient, en lui proposant plus que ce qu'il avait gagné avec son livre, à écrire des scénarios, ou à aider à scénariser ce qui n'était mal fait, tout ça, etc. Et ça a été le cas de toute cette génération. Ils ont tous travaillé pour Hollywood. C'est pour ça que celui qui a très bien dépeint ça, c'est Nathanael West, mieux encore que John Fante. Mais c'était, voilà, Fante aussi, c'est la même génération, les mêmes gens, les mêmes types qui écrivent, qui font des lignes. Ils sont payés à la ligne, ils sont payés au mot. Voilà pourquoi ça, je crois que ça a créé une école, une sorte d'école, et pourquoi ils se sont mélangés sans jamais dire « Ah ben moi, attends, je suis… » Ben, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un disait « Ah ben moi, je suis publié dans La Blanche, chez Gallimard, et toi, tu es en série noire. » On n'est pas dans le même camp, quand même. Non, on est différents l'un de l'autre. Ben non, ils se mélangeaient, ils étaient ensemble, et ils s'admiraient les uns les autres. Et à un moment donné, Hammett s'est effacé pour permettre… McCoy, par exemple, qui avait fini un roman, de le précéder, de le passer à son éditeur. Donc ça, c'est des choses
qui n'existent plus.
Ça n'existe pas, ça.
Non.
C'est sûrement une histoire fausse.
Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere bis to shame, please let me explain. By mere bis to shame means you're grand. By mere bis to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven bar each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bis to shame, so kiss me and say you understand. By mere bis to shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere bis to shame means that you're grand. By mere bis to shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven de ba. Each language only helps me tell you how grand you are. Tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bis to shame, so kiss me and say that you will understand.
Alors là, le Horace McCoy dont nous parlons, c'est le fait que Gallimard a sorti en quarto un volume spécial consacré à ses œuvres qui reprend un certain nombre de romans.
Cinq romans de McCoy et pas mal de nouvelles, je crois, je ne sais pas compter, mais ça ne doit pas être plus loin de la dizaine, quoi, j'imagine. Oui, parce que je l'ai lu. Pas toutes, mais j'avais noté, il me semblait. Les romans, ça m'a frappé, les cinq romans. Mais il a peu écrit, parce qu'il a beaucoup écrit pour le cinéma. Parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a adoré vivre et qui a claqué beaucoup d'argent. Et je n'y pensais pas à économiser, à se faire un plan retraite, si je puis dire. Je dis ça sans vouloir être... Sans humour,
sans ironie.
C'était des gens qui vivaient dans l'instant et qui ne pensaient pas faire de vieux os tous autant qu'ils étaient, et c'est bien ce qui leur est arrivé d'ailleurs. Soit il y a eu des suicidés, soit il y a eu des alcooliques, il n'y a pas eu les overdoses encore. Mais c'est une génération, c'est ce qu'on va appeler la génération perdue. Et c'est vrai que c'est un travail magnifique fait par. Je crois qu'il s'appelle Benoît Tadier, je ne suis pas moi un spécialiste de la série noire, mais je crois que c'est, oui, c'est ça, je ne voudrais pas lui donner. Il a fait un travail énorme de présentation, de resituer l'écrivain dans son époque, tout ça. Donc c'est parfois presque certaines pages sont aussi passionnantes qu'un roman, on voit comment il bouge, tout ça, etc. Donc il dépensait tout. Donc voilà, donc comme il dépensait tout, et que par exemple un linceul, un bas de poche, a été refusé par les cinq grands éditeurs américains au moment où le roman, alors qu'ils avaient publié On achève bien les chevaux sans problème, et ils avaient gagné de l'argent, les éditeurs et l'écrivain aussi, mais beaucoup moins évidemment, ils étaient, comment dirais-je, donc, il y a eu le refus, oui, voilà, je cherchais mes mots, pardon. Il y a eu le refus par les éditeurs américains, et ça va paraître grâce à un éditeur anglais. Et c'est dans ça que les anglo-américains ont un avantage sur tous les, avec les espagnols, parce qu'il y a une littérature hispanique qui peut être mexicaine, péruvienne, et tout ça. Alors que nous, on est limité. Par exemple, les Italiens aussi, etc., etc. Et donc c'est un éditeur anglais qui l'a publié, et ça n'a paru aux États-Unis qu'après la guerre.
Ah d'accord.
Et ça n'a jamais été adapté. Et c'est Jean-Pierre Mocky qui l'a adapté. C'est drôle, non ?
Ouais.
Et il a fait un film à partir de ça. Ça n'a jamais été. En tout cas, voilà. Donc évidemment, au cinéma, on le prenait tout de suite. Par exemple, j'ai noté qu'en 1952, il fait trois films. Il est scénariste de trois films, pas de un ni de deux, mais de trois, et pas avec n'importe qui. Raoul Walsh, Nicolas Ray et William Dieterle. Donc il n'arrêtait pas. Quoi.
Ouais,
donc,
c'est un boulot énorme.
Donc il n'avait pas tellement de temps après pour son œuvre, et il continuait à dépenser. Il était. Et alors, donc en plus, il a introduit le sexe, celui dans ces romans-là. Parce que dans les romans. Les pulp, les black stories, comme on disait, il fallait violence, oui, politique assez peu quand même, il ne fallait pas, hors lui, il a introduit la politique. Quand on avait dit que la blonde était voluptueuse, ça s'arrêtait là. Tandis que là, on a, malgré les coupures qu'il a consenti à faire à la demande de l'éditeur anglais dans Un linceul n'a pas de poche, il y en a moins que si dans l'édition américaine. Et il y a des scènes qu'on n'imagine pas dans les romans noirs. D'un seul coup, on est dans autre chose. On est dans la réalité, dans le sexe. McCoy a beaucoup plu aux Français quand ça a apparu au début, après la libération. Et il y a un journaliste américain très important qui est venu en France rencontrer les intellectuels français, qui est reparti complètement... stupéfait par le fait que chaque fois on lui disait « Ah oui, les grands écrivains américains, Faulkner, Hemingway, McCoy, et Sartre et Simone de Beauvoir, et Maurice Merleau-Ponty, et tout ça, etc. » Tous lui ont dit « Mais il n'y a que ça, McCoy, c'est sans doute le futur grand. » Et c'est étonnant, quoi, voilà. Et c'est aujourd'hui, qui lit encore McCoy. Alors j'espère qu'avec ça...
Oh bah avec cette parution, peut-être que certains vont découvrir quand même l'œuvre qu'il a pu écrire.
Oui, absolument. Je pense, mais bon, il faut le souhaiter. Bon, c'est évidemment, Quarto, c'est un gros livre, un livre donc plus cher que les autres, mais ça vaut vraiment la peine.
Quoi. Oui. Même si c'est un gros livre, c'est agréable à lire. Et c'est pour ça que j'aime bien la collection Quarto, c'est que c'est au point de vue présentation du livre... c'est tout à fait accessible et il faut le préciser parce que bon, parfois certains gros recueils comme ça, comme bouquins ou autres, sont moins plaisants.
C'est vrai. Donc c'est quelque chose aussi que j'apprécie. C'est vrai que c'est très 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 lisible et très confortable.
Oui, tout à fait, ce qui est important.
Et en plus, il y a des illustrations, c'est important. Et en plus, les traductions d'origine, même celles, et surtout celles de Marcel Duhamel, qui prenait des libertés avec le texte, en quoi il avait raison, et en tout cas, ce qui compte, c'est pas de suivre à la lettre un texte pour bien le traduire. Ce qui compte, c'est de trouver la même musique, de trouver l'équivalent de la musique américaine dans la musique française. Et donc ça, il l'a bien fait, mais en même temps, il a fait comme tous les éditeurs de cette époque-là avec les romans dits noirs, il a enlevé par-ci, par-là, des petites choses, tout ça, etc. Donc la traduction, toutes les traductions cette fois-ci, même si c'est la traduction d'origine, ont été revues et corrigées le cas échéant et améliorées, et on y a remis ce qui manquait à la demande de Benoît Tadier par un traducteur et un relecteur tout à fait épatant. Voilà.
À découvrir, vraiment.
Absolument. Je pensais, quand je lisais McCoy, je finis là-dessus, parce que comme je suis en train de relire aussi Tchekhov, il y a une réplique de Tchekhov, de ce fou de Platonov, qui va bien à McCoy. Si on lui demandait « Qu'est-ce que cherchez-vous ?», il pourrait répondre « Je cherche plutôt à m'éviter moi-même.
» On va rester là-dessus, c'est trop bien.
Voilà.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci à toi et à bientôt.
Et voilà, on arrive à la fin de ce numéro d'Idéo et Débat. Et pour terminer sur autre chose que des livres, je vous propose d'entendre un morceau, c'est un peu une chanson, c'est un peu un spécial copinage. Voilà, je vous propose d'écouter la nouvelle chanson de Claude Vadaz sera en concert en compagnie de Dick Angard et Loïc Lantoine à Lille le vendredi 19 mai à 20h. Alors venez tous écouter les nouvelles chansons de Claude Vadaz et on se quitte donc avec ce titre qui s'appelle « Qu'as-tu fait ?»
Qu'as-tu fait, Roberto Saviano? Qu'as-tu fait, Salman Rushdie? Qu'as-tu fait, Anna Politkovskaya? Qu'as-tu fait, Julian Assange? Qu'as-tu fait, Edward Snowden? Qu'as-tu fait, Chelsea Manning? Avant les menaces de mort, vous n'avez pas crié moins fort. Pas de vraie vie sans liberté, pas d'air libre sans vérité.
Qu'as-tu fait, Oscar Wilde? Qu'as-tu fait, Émile Zola? Qu'as-tu fait, Victor Hugo? Qu'as-tu fait, Liu Xiaobo? Qu'as-tu fait, Sushmita Banerjee? Qu'as-tu fait, Gauri Lankesh? Malgré les appels à la mort, vous n'avez pas chanté moins fort. Pas de vraie vie sans liberté, pas d'air libre sans vérité. Nature humaine, es-tu cruel sans remède? Qu'as-tu fait, Kabuchard et Maurice Honoré, Tignoux et Volinsky? Qu'as-tu fait, Elsa Kaya? Qu'as-tu fait, Francesca Sandoval? Qu'as-tu fait, Garcia Lorca? Qu'as-tu fait, Anna Politou? Skaya.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.